bain.
Dans cette édition, on parlera de cette relax du pêcheur de Wainé qui avait percuté et tué un garçon de 7 ans qui faisait du snorkeling. On reparlera aussi de la réforme du RNS dont l'abrogation se prépare à l'Assemblée. Et pour terminer, du surf avec Mihimana Braille. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabreau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Lucie, on commence avec cette information justice. Le pêcheur de Wainé qui avait percuté et tué un enfant de 7 ans a été relaxé.
L'accident s'était déroulé en décembre 2022. Un père et son enfant de 7 ans faisaient du snorkeling au-dessus d'une épave dans la baie de Haapu à Wainé. Quand un potimarara a percuté l'enfant, grièvement blessé, il n'avait pas survécu. L'accident s'était produit dans une zone de mouillage où la vitesse est limitée à 5 nœuds et où la baignade est normalement interdite. Et l'enquête avait révélé que le pilote naviguait à une vitesse excessive de 13 nœuds. Lors de l'audience, le 6 mai dernier, le pêcheur de 32 ans avait reconnu sa responsabilité. Il avait admis son excès de vitesse et disait avoir été profondément marqué par le drame. Poursuivi pour homicide involontaire, la procureure avait requis un an de prison avec sursis et la décision a été rendue ce matin. Le tribunal a relaxé le pêcheur, estimant qu'il ne pouvait pas voir l'enfant en immersion et qu'en plus, aucune signalisation indiquait une limitation de vitesse à 5 nœuds.
On passe à la politique maintenant avec la réforme du RNS qui continue encore de faire débat.
Oui, c'est son abrogation qui s'apprête à être débattue à Talahoy. C'est d'ailleurs l'unique point du jour à l'ordre du jour de la séance de jeudi. Une séance organisée spécialement pour faire passer au plus vite cette proposition de loi co-signée par le Tavini, le Tapura et les élus à Hereya Polynetia. Une coalition qui assure au texte d'être adopté, même si Moetei Broverson et son gouvernement entendent défendre le maintien de la réforme ou le report de son application jusqu'au dernier moment. Mais déjà, on peut se poser des questions sur la suite. La semaine dernière, le gouvernement a rappelé par communiqué que les inscriptions au RNS restaient obligatoires avant le 31 mai, comme le prévoit la réforme votée en septembre. Moetei Broverson a aussi plusieurs fois rappelé que l'abrogation ne prendrait effet en incluant les délais de recours qu'en octobre prochain. La mise en œuvre de la réforme est donc maintenue pour quelques mois, mais Hereya Polynetia espère l'interrompre en faisant tomber ses arrêtés d'application. Un recours sur le fond a déjà été déposé par Jonathan Crawford début avril et le Parti Vert compte accélérer le pas en déposant dès le lendemain de l'abrogation un recours en référé au tribunal administratif, comme l'a annoncé Nicole Sanquer dans une vidéo. On l'écoute.
Nous voulons que le tribunal statue sur ces arrêtés d'application et un référé fait accélérer finalement le rendu du tribunal. Et si nous obtenons gain de cause, et ben c'est pratiquement toute la loi qui peut tomber très vite parce que les arrêtés d'application peuvent être rejetés.
Voilà la présidente de Hereya Polynetia, Nicole Sanquer, qui espère donc que le juge administratif fasse tomber les arrêtés d'application de la réforme du RNS avant que l'abrogation du texte fasse elle-même effet. La députée a aussi tenu à rassurer les ressortissants dans une vidéo diffusée sur la page de son parti. Le texte d'abrogation prévoit, en attendant qu'un nouveau texte soit voté, que chacun retrouve son régime d'origine. Les RSPF restent au RSPF, les salariés restent au RGS et les RNS au RNS. Quant à la menace d'une cotisation sur tous les revenus et au premier franc qui a été avancée par le gouvernement, Nicole Sanquer n'y croit pas. Il faudrait pour cela que le président du pays prenne les arrêtés d'application de la réforme de 2022 qui n'ont jamais été publiés et qu'il endosse donc la responsabilité de ces cotisations. Autant de sujets qui devraient de nouveau être débattus jeudi.
On va à Paris maintenant où la ministre des Outre-mer se déclare favorable à la reconduction du fonds de transition énergétique.
Oui, c'est dans un courrier adressé au député Moerani Frebo que la ministre s'engage donc pour demander la reconduction du Fonds de Transition Énergétique ou FTE. Avec ce dispositif, l'État a cofinancé des projets hydroélectriques, photovoltaïques, de stockage d'énergie ou de modernisation des réseaux électriques. 7 milliards de francs depuis 3 ans. Normalement, ce FTE doit s'éteindre en fin d'année, mais le pays aimerait le voir reconduit et avait même proposé de le cofinancer. Mais après leur rencontre, le parlementaire Moerani Frebo a reçu cet engagement écrit de la ministre Naïma Moutchou. Elle demandera un renouvellement du fonds dans la prochaine loi de finances nationale, sans même cofinancement de la part du pays. Et le combat n'est pas pour autant fini, précise Moerani Frebo dans une vidéo. Petit extrait.
Il reste maintenant une ultime étape,
Lors de mon prochain déplacement à Paris en mi-juin, je rencontrerai la ministre chargée de l'énergie, Maud Bréjean, pour défendre directement ce dossier. Et j'interrogerai ensuite le gouvernement en séance publique afin d'obtenir un engagement officiel pour inscrire cette reconduction dans le budget 2027 de la nation. L'objectif est simple, continuer à financer la transition énergétique du Fénois, réduire notre dépendance au pétrole importé et protéger les Polynésiens face aux crises internationales.
Moïra Nifrebo a aussi évoqué les questions d'énergie avec le ministère de l'Europe qui dit pouvoir l'aider. Il doit se déplacer au Parlement européen dans les semaines à venir pour obtenir des fonds complémentaires de l'UE.
On parle science maintenant avec le cycle de conférences, l'association ProScience qui continue. Voilà,
pardon. Oui, c'est organisé par l'association ProScience. Et après les algues et le cerveau, on s'intéresse maintenant aux cellules souches et à la médecine régénérative. Le directeur de recherche au CNRS, le docteur Michel Cohen-Tanoudji, va animer deux conférences mercredi et jeudi sur les avancées récentes de la recherche sur ces sujets. Des sujets qui nous touchent puisque ces progrès sont porteurs d'espoir pour traiter des maladies comme le diabète, la dégénérescence maculaire, les yeux, l'épilepsie, Parkinson ou encore les maladies génétiques. Aujourd'hui, les chercheurs savent cultiver des cellules souches pour les transplanter ensuite chez le patient et rectifier ce qui marche moins bien ou plus du tout. Le docteur Michel Cohen-Tanoudji donne l'exemple de la maladie de Parkinson.
Si on est capable de manipuler des cellules souches pour produire des types cellulaires actifs et fonctionnels, peut-être on peut, dans certains cas de maladies très spécialisées où il y a un besoin d'un type cellulaire donné qui est absent, comme dans par exemple Parkinson, les neurones qui produisent la dopaminergie sont absents, ce qui provoque la maladie. Aujourd'hui, on essaye de générer des neurones qui produisent cette dopamine à partir de cellules souches dans le laboratoire et de venir les transplanter chez le patient pour corriger une partie des symptômes de la maladie.
Des progrès médicaux qui peuvent être utilisés aussi pour une dégénérescence comme la DMLA, donc la maladie où les personnes deviennent petit à petit aveugles, ou encore contre le diabète en recréant les cellules du pancréas qui sécrètent l'insuline. Aujourd'hui, il reste encore une étape à franchir, faire en sorte que les personnes transplantées puissent se passer d'immunosuppresseurs, ces médicaments qui permettent au corps de ne pas rejeter ces nouvelles cellules. Alors verra-t-on ces nouvelles techniques utilisées ici un jour ? Aujourd'hui, les centres hospitaliers qui développent ces approches sont encore limités, situé plutôt aux États-Unis et en Europe avec des laboratoires de recherche très importants. Mais rien n'est impossible puisqu'il y a déjà des greffes de reins pratiquées ici.
C'est déjà un environnement qui permet d'envisager dans un futur pas trop lointain peut-être d'implémenter ce type d'approche qui, par rapport à des greffes d'organes, sont plus légères puisqu'on n'a plus cette urgence entre la disponibilité d'un greffon et le moment de la transplantation. On peut programmer le moment où on va réimplanter ces cellules et donc ça permet d'exporter beaucoup plus facilement ce type d'approche dans des structures médicales et hospitalières.
Et si vous êtes intéressé par ces sujets et voulez en savoir plus, alors il faut aller à la conférence, c'est gratuit et ouvert à tous. Ça se passera jeudi à 18h à l'association philanthropique chinoise. Et on en profite aussi pour inviter les auditeurs à aller liker la nouvelle page Facebook de ProScience, désormais à cette adresse, Association ProScience Tahiti.
Et on passe au sport maintenant avec la Toapo Pronaouia qui a commencé hier.
Une première compétition internationale de surf sur le spot de Tahapuna pour ouvrir la saison des QS de la World Surf League. 100 athlètes locaux et internationaux réunis et parmi les Polynésiens qui ont passé les premiers tours, Teiva Tetahio, Enrique Ariitu, Tikanui Smith, Mataya Ekili, Tereva David et puis chez les filles, ça passe aussi pour Aelan Vast, Kohei Firo, Miliani Simon, Reipoe Chapelier et Mikilani Pinson. Alors il y a peut-être du changement car ça surfe actuellement.
Et oui, Emi Manabrai s'est qualifié aussi ce matin pour les 16e de finale.
Oui, mais Manabrai qui est qualifié pour les Challenger Series mais qui profite des épreuves QS organisées à la maison pour se mettre dans le bain pour la première année de QS donc organisée à Tahiti qui ouvre la saison pour la région Hawaii-Tahiti dont il veut profiter pour affûter sa planche. Mais pour lui, ça va officiellement commencer à Balito en Afrique du Sud à partir du 12 juillet.
Pour moi, j'ai qu'un objectif en tête, c'est le CT quoi, donc je vais vraiment me concentrer sur les Challenger. Là, ça fait déjà 3 mois que j'ai implémenté une nouvelle routine à camp d'entraînement. J'ai tout un staff autour de moi, toute une équipe, j'ai un préparateur physique, j'ai mon coach technique, j'ai un ostéopathe, j'ai quelqu'un qui m'organise tous mes voyages et tout ça. Donc j'ai essayé de former toute une équipe autour de moi qui s'occupe de moi pour toute l'année pour essayer d'atteindre mes objectifs. Et voilà, je suis super motivé et voilà, je suis prêt à tout donner hein, cette année. Donc voilà, pour moi, ça passe ou ça casse cette année. Ouais.
Voilà, ça passe ou ça casse. Il est donc à l'eau pour la Toa Pro Punaoya. Il le sera aussi pour la Toa Pro Papara du 25 au 30 mai, avant donc de prendre la direction de Hawaï et puis l'Afrique du Sud en juillet. Et 5 étapes à ne pas rater pour réussir sa saison des Challenger Series et enfin peut-être être sur le CT. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour ce journal. Maintenant, voici la météo sur